improvisation is just something natural you do.
Improbox.
Improbox.
Improvising is living.
Le B.A.B.A. d'Ibé. Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
Bonsoir tout le monde. Nous sommes le mercredi 17 novembre, il est 19h08. Vous êtes donc dans Improbox Radio sur TSF Jazz et nous sommes surtout, c'est très important, en direct. Alors ça y est, la saison 2 est lancée maintenant depuis 2-3 émissions et puis comme vous le savez peut-être, cette émission est un prétexte sympa, mais un prétexte quand même à une rencontre. Une rencontre pas comme les autres, une vraie rencontre en direct entre deux artistes ou deux groupes d'artistes qui ne se connaissent pas et qui vont créer, inventer en direct une musique. Oui, Aïssa, Maïga, je sais, je vous vois là, d'ici c'est mon invité Aïssa, elle a un peu peur, elle se dit mais qu'est-ce qui va se passer, je sais pas. Bon voilà, j'ai révélé qui était ma première invitée. Alors vous, invité, vous allez donc partager un moment en direct, une musique, vous allez la créer là, ici, dans les studios TSF, en direct, en live. C'est pas du bluff, c'est du vrai, c'est la réalité, c'est la vraie, celle qui est loin des musiques photoshopées, des visages autotunés. On tranche ici avec une réalité dure, rare parfois, rêche, c'est la force de l'improvisation. L'improvisation, mesdames, messieurs, la seule, celle qui nous amène à aimer nos défauts, nos erreurs, celle qui nous amène à chercher nos dénominateurs communs, celle qui nous encourage à trouver des raisons de dialoguer, de nous comprendre et éventuellement de nous aimer. Cette rencontre ce soir aura lieu donc entre deux artistes singuliers que j'apprécie particulièrement. Donc d'un côté, je vous l'ai dit, Aïssa, Maïga, vous êtes une personnalité très forte du 7e art. Vous avez su vous imposer dans ce paysage fratricide qu'est le cinéma français. Même si c'est une... Même si vous êtes, d'une certaine manière, une personnalité forte, je pourrais presque dire une grande gueule, vous le faites toujours avec classe et délicatesse, vous arborez toujours ce sourire insolent, partout, vous posez les pieds, et surtout lorsque vous militez de tout votre cœur pour ces causes qui vous sont chères. Et d'ailleurs, si nous avons la chance de vous recevoir ce soir, c'est aussi parce que vous avez réalisé un documentaire absolument sublime, dont nous allons évidemment parler, surtout dans le début de cette émission. Documentaire qui est sorti le 10 novembre, donc la semaine dernière, et dont le sujet est éminemment essentiel et le deviendra d'autant plus dans les années et les décennies qui viennent. Vous êtes désormais une réalisatrice, pas seulement une actrice. On vous connaît comme actrice, évidemment. Vous avez déjà réalisé un premier docu. C'est votre deuxième grand documentaire. Aïssa Maïga, c'est un vrai plaisir de vous recevoir ce soir.
Merci beaucoup.
Sur le plateau musique, on a cette chance de recevoir également en live, en direct, c'est du vrai direct, voilà, je disais, on ne triche pas ici, un vrai musicien, des vrais musiciens. Alors, vous ne le connaissez pas forcément encore, c'est un musicien qui est tout frais, tout nouveau, mais qui va certainement chatouiller vos oreilles, puisqu'il ne laisse jamais indifférent quand on l'entend. Yesai Karapatian. Lauréat du concours de jazz de la Défense, ce pianiste est à la fois issu de l'enseignement du jazz français et américain, diplômé de jazz du Conservatoire de Paris et de la Berklee School de Boston. Ce jeune musicien plein de fougue nous accompagnera toute cette petite heure que nous allons passer ensemble avec les deux musiciens qui l'accompagnent que je présenterai tout à l'heure. Et puis comme je vous l'expliquais, voilà, à la fin de l'émission, il va y avoir ce moment de rencontre entre vous. C'est pour ça que j'appelais ça l'improbox. On est dans une boîte et vous allez improviser, une rencontre improvisée, une véritable création, comme on n'en fait plus tellement à la radio, à la télé, n'est-ce pas Jean-Charles Doucan, hein? On en fait oui de la tête, mais voilà, c'est important. et puis comme je parle de vous, et ça, j'ai envie qu'on commence cette émission avec vous. Vous êtes accompagné par Marc Karapatian à la basse, qui est votre frère, et Théo Moutou à la batterie, puis vous nous interprétez Times, qui est un extrait de Yesai, qui est votre album et qui sort le 28 janvier. C'est en direct, c'est parti.
Thank you.
Times, extrait de Yesai qui sort le 28 janvier. C'était Yesai Carapatian, Marc Carapatian à la basse et Théo Moutou à la batterie. Extraordinaire. Bravo. On comprend pourquoi ça s'appelle Times. Hein. Perdez pas de temps. Hein. Ça, dans tous les sens, je suis fan. Bravo, bravo, c'est super. Merci d'être avec nous. En tout cas, c'est super de vous avoir. On est sur un Pro Box sur TSF Jazz. Et puis, on était en direct. On est bien en direct. Hein. Hein ? Comment on peut prouver aux gens qu'on est bien en direct ? Comment il y a pas un truc qu'on peut faire pour...
Alors déjà il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'on est en Facebook Live, donc ça c'est une preuve.
Ah, vous pouvez aller exactement sur le Facebook de TSF et puis vous allez voir qu'on est en direct. Je me tourne vers vous, mon invité plateau, et je suis très très heureux de vous recevoir ici, Aïssa Maïga. Bravo pour ce documentaire extraordinaire que vous avez sorti le 10 novembre, Marcher sur l'eau.
Merci.
Je sais que vous avez fait un docu avant, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps
en
aussi.
En même temps.
Pratiquement en même temps,
oui.
Qui s'appelle Regard Noir.
Tout à fait, que comment... j'ai co-réalisé avec Isabelle Simeoni.
Alors racontez-moi, alors déjà, est-ce que, on va rentrer dans le détail un peu du docu, mais est-ce que c'était très différent pour vous ces deux aventures, ou est-ce que vous les avez réalisées plus ou moins un peu de la même manière, ou comment...
Ce sont deux formes et deux histoires complètement différentes. Regard Noir, ça parle vraiment de la place des actrices noires et plus généralement des minorités sur les écrans. En France, aux États-Unis, au Brésil, et c'est un film dans lequel je suis à l'image, je mène l'enquête, je vais à la rencontre des gens. Marcher sur l'eau, ça a été tourné au Niger, dans un village, à hauteur des habitants. Je n'apparais évidemment absolument pas dans le film, on n'entend pas ma voix. C'est vraiment l'histoire de cette communauté villageoise, à commencer par Houlaï, une jeune fille de 14 ans, qui est propulsée dans des responsabilités d'adulte en l'absence de ses parents. On va y revenir, j'imagine.
Oui, absolument, on va y revenir. Et du coup, le traitement même du travail n'était pas du tout similaire. Donc vous avez fait deux docus pratiquement en même temps, avec deux techniques finalement de documentation qui sont presque radicalement différentes.
Oui, dans Marcher sur l'eau, je voulais vraiment donner la sensation aux spectateurs, aux spectatrices, qu'ils faisaient partie du village. En étant dans un rythme qui est celui de ce village du Sahel, au Niger, en étant dans les peines, les joies, en étant dans les problématiques évidemment liées à l'eau, puisque c'est de ça dont il s'agit dans le film, comment vivre au quotidien, comment une famille reste soudée ou non, lorsqu'au quotidien la question de l'eau est absolument centrale et occupe tous les moments de l'existence en raison du réchauffement climatique. Donc il y a d'un côté un film Regard Noir qui est vraiment une enquête très dynamique, une sorte de road movie documentaire où on rencontre des gens à Hollywood, des stars brésiliennes, des personnalités françaises. Et puis dans Marcher sur l'eau, vraiment pour moi le retour aux terres sahéliennes auxquelles je suis très attachée. Je suis née dans le Sahel, j'ai pas grandi, je vis à Paris, mais c'est un endroit dans lequel je suis retournée beaucoup depuis l'enfance pour voir ma famille au nord du Mali, dans la région de Gao, ou alors pour y travailler en tant qu'actrice pendant longtemps et maintenant en tant que réalisatrice.
Et puisque vous l'évoquez, on vous pose certainement la question, on va rentrer un peu plus dans le film évidemment, mais... J'imagine qu'on vous pose la question souvent, est-ce que passer de l'autre côté de la caméra, pour vous c'était naturel ou est-ce qu'on vous, enfin, on vous connaît quand même beaucoup et à la télé et au cinéma. Vous avez fait plus de 30 films au cinéma, pratiquement autant à la télé. Vous êtes quelqu'un qui est assez présent et qu'on reconnaît, qu'on connaît. Mais d'un seul coup, de vous retrouver de l'autre côté, voilà, je me demande simplement, est-ce que c'est un exercice de style ou est-ce que vous avez toujours imaginé le faire et quelque part c'était là, c'était caché, mais ça ne se révélait pas peut-être ?
Oui, j'ai toujours rêvé de le faire. En fait, j'ai toujours su que je ne serais pas uniquement actrice. Je voulais écrire, je me suis beaucoup torturée avec la question de l'écriture.
La légitimité,
est-ce oui, que je suis, évidemment, c'est... la ouais. légitimité. Puis mon père écrivait, il était journaliste. L'histoire de la plume dans la famille a pris beaucoup de place, d'autant plus qu'il est mort dans des circonstances toujours pas élucidées aujourd'hui, en 1984. Et donc la question de l'écriture, pour moi, était une question grave. Et la question de la réalisation, ça l'était aussi, pour d'autres raisons. C'est que j'avais l'impression que c'était un endroit un peu inatteignable, que je ne saurais sans doute pas faire, et qu'il fallait en plus que je sois... hyper légitime quant au sujet. Et là, bizarrement, c'est une proposition qui m'a été faite de réaliser ce film, qui à l'origine devait être réalisé par Guy Lagache, Il avait d'ailleurs fait des repérages, notamment au Togo, au Niger et dans le village de Tatiste.
Tatiste, c'est là où se passe le nœud de l'histoire.
Absolument, et c'est un village que je ne connaissais absolument pas. Mmh. Mais quand le producteur Yves Darondo m'a proposé de reprendre le projet, j'ai demandé où est-ce que vous êtes allé, par curiosité, hein, j'avais vraiment aucune certitude quant au lieu en Afrique de l'Ouest où j'allais tourner. Et quand on m'a décrit ce village, quand on m'a décrit les habitants, quand on m'a décrit la place de l'école, quand on m'a décrit l'impact du réchauffement climatique dans cette zone du Niger qui est l'Azawak, que d'ailleurs beaucoup de gens au Niger ne connaissent pas forcément. Hein. Mmh. Les gens qui habitent à Niamey ne sont pour beaucoup jamais allés là-bas et ne se doutent même pas
de la misère aussi.
Oui, de la façon dont... de la survie quotidienne dans laquelle les habitants sont en face de la question de l'eau. Et puis, j'avais envie de faire un film à hauteur d'enfant. Je voulais vraiment que la condition de l'enfant, la condition féminine aussi, évidemment, mais que la condition de l'enfant soit au centre du film. Moi, j'ai vécu avec une famille qui a toujours été éloignée. Je ne parle pas de la famille en France, hein, évidemment, mais celle qui est au Mali.
Et la famille d'où on vient, quoi.
Voilà, exactement, au Mali, au Sénégal. Et puis, dans ce lien hyper fort, dans ce lien d'amour extrêmement puissant, il y a toujours eu la notion du manque. Et donc ça, je savais que je pouvais le raconter. Même si moi, je ne suis pas du tout... j'ai une vie privilégiée, évidemment. J'habite ici en France, je n'ai jamais eu de problème d'accès à l'eau potable.
C'est fou quand on voit votre documentaire Aïssa Maïga. Ce qui est dingue, c'est on le sait qu'il y a des endroits dans le monde où on manque d'eau. On sait aussi, parce qu'on en parle de plus en plus, que ça va être le cas de beaucoup de monde et de plus en plus de monde, voire peut-être même de nous toucher à un moment donné. Ce manque d'eau va bien arriver dans 30, 40, 60 ans, je ne sais pas quelles sont les estimations.
Puis en Guadeloupe ou dans d'autres endroits en France, on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas accès.
Qui manquent d'eau, voilà. Mais là, on le voit. On voit quelque chose qui, en fait, quelque part, nous effraie. On fait un déni énorme sur la question de l'eau. Parce que nous, on en a à profusion. On n'a aucun problème avec l'eau. On est là, on en gâche tous les jours des tonnes et des tonnes. Et là, d'un seul coup, on fait face à la réalité. En fait, vous nous mettez face... Alors moi, ce que j'ai évidemment beaucoup aimé, le rythme. On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs, du rythme que vous avez choisi pour ce docu. Parce que le rythme, c'est aussi la musique de ce film.
Oui.
Et moi, ça me parle, évidemment. Mais au-delà de ça, il y a faire face à une réalité... qui en fait on a l'impression que c'est loin. Moi quand j'étais petit, je me rappelle, on parlait de la Somalie, du riz qu'on collectait, on parlait évidemment du Liban et de la guerre civile, etc. On parlait de beaucoup de choses, mais quelque part corps d'Européens et finalement qui ont largement rassasié de tout, on pensait que c'était quelque chose qui ne nous toucherait jamais. Or en fait l'Afrique c'est nous aussi quelque part.
Et
là d'un seul coup de faire face à cette réalité là. Eh ben, j'ai l'impression que vous nous mettez face à une réalité, face à une de nos grandes contradictions, c'est qu'on gaspille énormément et on ne se rend pas compte de ce qui va se passer dans quelques dizaines d'années ici même. C'est presque une vision égoïste que j'ai eue en regardant. Je me suis dit, c'est terrible ce que je vois, mais en plus de ça, c'est quelque chose qui peut-être va nous toucher
Absolument.
Un jour aussi.
Mais c'était la connexion que je voulais créer entre ce qui est montré et avec les spectateurs. Je voulais vraiment qu'on ait la sensation de se sentir tout proche de leur expérience. Et pour moi, ça n'est possible que s'il y a un phénomène à la fois d'identification et de l'empathie qui se crée. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu parler de cette famille et qu'on entre dans leur univers, dans leur réalité, dans leur lien. Je voulais surtout pas que ce film ce soit l'histoire d'une misère accablante, regardée de l'extérieur, avec de la pitié.
Il n'y a aucun misérabilisme dans votre film.
Absolument.
À aucun moment.
Ça, c'était vraiment un écueil que je voulais éviter à tout prix. Et pour moi, ça, j'ai pu l'éviter parce que les personnes que je filme sont extrêmement dignes et résilientes.
Et pour accompagner ce que vous dites, moi, ce que j'ai ressenti, c'est ça aussi qui est fou, c'est que j'ai tellement aimé ce village que je me suis même imaginé vivre avec eux quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui donne... C'est plus que de l'empathie. On envie cette vie complètement à l'opposé de la nôtre, dans une forme de sérénité. Mais cette sérénité, évidemment, est confrontée à la réalité du monde dans lequel ils sont, c'est-à-dire qu'il manque d'eau, il faut du forage, il n'y a pas l'argent pour forer, et personne ne va le faire si on ne les aide pas, en fait, c'est ça. Et
oui.
Tout le monde part, ils partent, ils quittent, en fait, leur village, et c'est terrible, parce que c'est des endroits qui sont très beaux.
Oui, alors, on est dans une communauté Peul-Wadabé, les Peuls-Wadabé sont nomades, Mais l'impact du réchauffement climatique fait qu'en 25 ans, et c'est un impact qui est imputé aux pays industrialisés, hein, le Niger ne pollue quasiment pas, mais l'effet de la pollution industrielle mondiale a accéléré le processus de réchauffement. Et la saison des pluies, qui pouvait durer il y a 15 ans encore 3 ou 4 mois, avec des pluies éparses pendant le cinquième mois, dure maintenant 1 à 2 mois. Donc l'accès à l'eau est quasiment rendu impossible tout au long de l'année. Et ce qui est assez fort par rapport à ce que vous dites là, c'est qu'ils ont un attachement à leur terre. Les gens n'ont pas envie nécessairement de partir.
Évidemment. Et d'ailleurs, on les voit, pardon, je vous interromps,
oui.
Mais on voit enfin, moi, j'étais très ému par cette scène de fin où on voit le forage.
Alerte spoiler.
Non, ouais, d'accord, je dis rien. Non, mais il y a
non, mais je l'ai dit partout à longueur d'interview, donc tout va bien. Non, non, je plaisante.
Bon, il y a un moment. Bon, on se doute qu'il y a un moment.
À un moment, on voit de l'eau.
On voit de l'eau, mais alors ça arrive d'une manière qui est absolument dingue et c'est tellement cinématographique, vraiment bravo pour, d'ailleurs, pour ça. Alors, on a parlé évidemment pas mal de ce docu, maintenant j'ai envie d'aller un peu plus loin dans votre manière de travailler. Juste avant de passer à la deuxième étape de cette émission, on va parler un peu plus d'improvisation et de la place de la création et de l'improvisation dans votre travail. On va écouter à nouveau ce trio magnifique de Yesai Karapetian. D'ailleurs, on dit Karapetian ou Karapetian ?
Karapetian.
Karapetian. Voilà, Karapetian, accompagné par Marc Karapetian à la basse et Théo Moutou à la batterie. On va écouter Invisible Mood, Invisible Moon, qui est un extrait également de Yesai, qui est l'album qui sort le 28 janvier. Et c'est tout de suite, juste après ça.
Improbox.
Et en réalité, la vie, c'est improvisation.
Le B.A.B.A. d'Ibé.
Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Et inévitablement, nous avons la chance d'avoir des improvisateurs dans cette émission Improbox en direct. C'est le trio de Yesai Karapetian avec Marc Karapetian à la basse, Théo Moutou à la batterie. Yesai est au piano et on écoute Invisible Moon, un extrait de son nouvel album qui sort le 28 janvier.
Thank you.
Improbox, Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
Magnifique, trois musiciens extraordinaires. Yesai Karapetian, Karapetian au piano, Marc Karapetian à la basse et Théo Moutou à la batterie. Les amis, je vous découvre et je vous trouve extraordinaire. Et on a une chance incroyable de vous avoir en live. C'est un album qui s'appelle Yesai et qui sort le 28 janvier au label, sur le label Kyudo. Et que j'encourage tout le monde à aller découvrir donc très bientôt. Voilà. Nous allons continuer la conversation dans cette émission Improbox avec une invitée de vraiment très spéciale que j'avais envie de recevoir depuis un petit moment, mais là c'était l'occasion qui faisait le larron, comme on dit. Aïssa Maïga, vous êtes avec nous, vous êtes actrice, on vous connaît depuis très longtemps comme actrice, puis réalisatrice depuis finalement pas si longtemps, et vous avez sorti donc ce documentaire dont on a parlé un peu depuis le début, Marcher sur l'eau. Quand vous écoutez de la musique comme ça, du jazz, enfin, je trouve ça très cinématographique, moi, ce que je viens d'entendre. Vous imaginez un peu créer des images à partir de ça? Enfin, moi, je voudrais parler dans cette deuxième partie d'émission de création, d'improvisation, de votre manière de travailler en tant qu'artiste. Est-ce que là, quand vous fermez les yeux, vous écoutez ça, vous tout de suite vous imaginez des images ou pas forcément?
Bah, d'abord, je les regarde parce qu'ils sont littéralement, enfin, dans une forme de concentration qui est hyper impressionnante et qui est très cinématographique. Il y a quelque chose de l'ordre de la lévitation, en même temps de l'ancrage hyper fort. Enfin, moi, je suis hypnotisée quand je les regarde. Et puis là, si vous me posez la question du cinéma, ça me rappelle, ça me ramène à John Cassavetes, qui est vraiment un réalisateur qui a fait partie de mon, qui a été sur mon chemin. Et qui m'a formée, en fait, à travers les films que j'ai pu voir de lui.
Les choix musicaux aussi.
À travers les choix musicaux, et puis à travers la sensation de très grande préparation, mais aussi d'improvisation dans les scènes. On a parfois l'impression que sa femme et muse, on pourrait dire, Gina Rowlands, était dans quelque chose, dans un espace dans lequel elle pouvait... un espace qu'elle pouvait investir.
Libre.
Un espace libre et un espace dans lequel elle emmène la mise en scène. C'est ce que j'ai toujours trouvé très impressionnant. Et je pense à Shadows, qui se passe dans la nuit new-yorkaise. Je ne l'ai pas revue depuis très longtemps. Mais quand j'entends ce que vous venez de dire, j'entends de l'amour, j'entends la nuit, j'entends la ville, j'entends plein de choses. Je trouve ça magnifique.
Est-ce que vous, en tant qu'actrice, vous avez eu cette liberté que vous venez de décrire?
Parfois, oui. Il y a des metteurs en scène, des cinéastes qui ont le goût de ça. Je pense à Dominique Cabrera, avec laquelle j'ai fait un film qui s'appelle « Quand la ville mord ». Et c'est un film qu'on a énormément préparé, mais dans lequel, justement, grâce à cette très grande préparation, j'ai eu un espace de liberté absolument incroyable et une connexion, en fait. Cette liberté, elle va de pair avec la connexion qu'on a, cette très grande confiance qu'on a dans le processus créatif entre la personne qui joue et celle qui dirige.
Et est-ce que vous avez confiance en ces musiciens? Parce que vous savez que tout à l'heure, vous allez être à l'initiative quand même d'une création. Ah, ça, vous
mais
allez...
est-ce qu'eux ont confiance? C'est ça aussi la question.
Je rappelle quand même le principe de cette émission, un provoque. Ouais. En fait, donc, j'ai deux invités. Ce soir, Aïssa Maïga qui est avec nous. Et puis, de l'autre côté, sur le plateau musique, c'est Yesaï Karapetian. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette émission, un peu avant la fin, évidemment, il y ait une rencontre entre vous. Et vous qui n'êtes pas musicienne, qui n'êtes pas compositrice,
absolument
vous
pas.
Allez, mais on va vous aider évidemment, mais vous allez créer quelque chose, vous allez inventer quelque chose qui sortira là tout de suite de vous pendant l'émission en live. Et cette idée va être reprise par les musiciens que nous avons sur scène avec nous et qui vont la développer. Et ensuite, ce sera le premier qui ira à la SACEM pour l'inscrire quand même. Hein,
parce que on le sort quand l'album après?
Et bien après, voilà, c'est Improbox Connecting People. Faites ce que vous voulez après. Voilà, c'est le principe de cette émission et donc on va avancer un peu. Moi, j'aime bien parler de cette place de l'improvisation dans votre travail. En tant que réalisatrice, vous avez parlé de préparation, vous avez parlé de cette collaboration où vous avez énormément préparé pour ensuite être libre. J'imagine que Cassavetes, c'était la même chose. Il devait beaucoup parler avec sa muse, sa femme, de ce qu'ils allaient faire de manière à ce qu'elle puisse être libre. C'est ce que vous décriviez tout à l'heure. Est-ce que vous... Parlons par exemple de Marcher sur l'eau, sur ce documentaire. Vous avez, j'imagine, beaucoup travaillé, d'autant que, comme vous l'avez dit, c'était une commande, on vous a appelé pour le faire. Donc j'imagine que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, étudié votre dossier. Mais au moment de tourner, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Cette jeune villageoise, Houlaï, on ne sait pas si elle va vraiment... Est-ce que vous avez mis en scène des choses? Est-ce que
tout
est naturel?
Ce film, il est hybride. Il est hybride, d'abord, parce que je pense que moi, je suis un être hybride, clairement, mais... Il est hybride parce que, d'une part, il y avait des choses qui étaient vraiment tournées sur le vif, qui étaient captées, qui étaient de la captation directe de scènes, de moments de vie, de tranches de vie qui se déroulaient sous nos yeux. Et puis, par ailleurs, je savais que je n'allais pas pouvoir rester un an en continu, que l'histoire se déroulait, elle, sur une année complète.
Vous avez fait des allers-retours.
Voilà, j'ai fait cinq sessions de tournage entre octobre 2018 et octobre 2019. Et ces sessions-là ont duré entre une semaine et 15 jours. Et donc, quand je venais, à la fois, on préparait et je savais qui allait être là. Parfois, il y avait des surprises. On me disait, un tel sera là. Et puis, finalement, il n'était pas là. Cette personne devait se déplacer pour X raisons. Et donc, j'ai toujours été dans ce processus qui était à la fois de coller à ce que j'avais préparé, à ce que j'avais prévu, en tout cas. Et puis, d'improviser, d'être dans cette réactivité, dans cette, cette adhésion à la surprise. Et du coup, parfois, il y a cette disponibilité. Il y a eu parfois des moments qu'on a vraiment convoqués ensemble avec les personnes que j'ai filmées, comme, je ne dévoile pas grand-chose, mais le départ des mères était un moment que je voulais vraiment filmer et qui ne correspondait jamais, qui ne coïncidait jamais avec notre planning. Et donc, on a énormément parlé avec certaines de ces mamans pour que je comprenne vraiment, et au-delà de la compréhension intellectuelle que je ressente, ce que sont leurs traversées. Et ensuite, je leur ai demandé si elles étaient d'accord pour qu'on le fasse. Et c'était assez poignant de voir ces personnes qui sont, qui sont des sans-voix, qui sont des oubliés, avoir une caméra disponible pour eux, pour recréer un moment qui est leur propre vie. Et on a aimé ça, ça a été des moments très forts. Alors certains ont vu le film, d'autres ne l'ont pas encore vu.
Ils ont dû mettre en scène leur réalité.
Voilà, ce sont les acteurs de leur propre vie, quoi, d'une certaine façon.
C'était déchirant d'ailleurs cette scène où il y a le petit garçon à qui on dit ta mère va partir là, et qui est tout... ça devait être dur aussi, il y a des moments de sincérité extraordinaire. Parce que là vous dites que vous aviez préparé un peu, mais il y a des moments où c'était...
Il y a plein de moments qui ne sont pas préparés, qui sont des moments qu'avec mon chef opérateur... Rousselane Dion, on a vraiment capté sur le vif. Et puis il y a aussi ensuite le montage, qui est un long moment de travail, qui est plus long que le moment de tournage, dans lequel on met des images en correspondance les unes avec les autres. Donc cette notion d'improvisation, elle est aussi capturée ensuite dans d'autres processus.
Et Samaïga, quel est pour vous l'impact, quel doit être l'impact de ce film? Quel est... On sent que vous êtes une personne engagée. Quel est le sens de cet engagement pour vous? Où va ce film? Quelle va être son utilité selon vous dans les mois, dans les années qui viennent?
Ce film, il est fait pour être vu, apporter une sorte de prise de conscience à travers un travail qui est à la fois documentaire, sensible, artistique et esthétique. C'est aussi pour nous, quand je dis nous, c'est mes producteurs et toutes les équipes du film, l'occasion d'aller au-delà même de ce film-là. Alors, il y a un site internet qui existe qui s'appelle marché-sur-l'eau.co.
Attends, redites-le une fois. Parce que
marché-l'eau. Non, marché-sur-l'eau. On marchait sur l'eau avec des tirets.
Est-ce qu'entre le L et le E de O, il y a un E également?
Non. Et ce site, il permet d'aller au-delà de ce que propose le film, de chercher des informations sur la question géopolitique de l'eau, de connaître quelles sont les initiatives, les ONG, notamment africaines, absolument, et d'interpeller les Nations Unies sur la question de l'eau qui, comme vous le disiez, va devenir absolument centrale dans les décennies à venir.
Comment vous auriez fait s'il n'y avait pas eu le forage à la fin du film? J'ai supposé la question.
Bon, on aurait fait différemment, mais l'ONG avec laquelle on a travaillé, qui s'appelle l'ONG Amaniman, s'était engagée à le faire. Et entre-temps, les travaux ont été suspendus parce qu'il fallait terminer tout ce qui est canalisation multivillage, parce que c'est un forage assez ambitieux. Et là, en ce moment, le gouvernement du Niger est en train d'aboutir la finalisation du forage, et c'est une question de jours.
Donc c'est là, ça se trouve, c'est pendant qu'on parle.
Mais peut-être. Excusez-moi, ça fait 3 ans que je suis sur ce projet, ça me met en émoi.
Voilà. Je comprends, et le film est très émouvant, et j'encourage vraiment tout le monde à aller voir ce film qui est en ce moment au cinéma, en fait, qu'on peut aller découvrir.
Absolument, qui est dans les salles en France, et aussi dans beaucoup de pays africains.
On ne vous attendait pas du tout sur ce terrain-là. Enfin, moi, en tout cas, je vous attendais pas.
Moi non plus,
je ne
m'attendais pas sur ce terrain-là.
Quelles sont les prochaines aventures où vous allez nous surprendre? Vous n'allez pas spoiler, mais quand même, il y a des...
Alors, en tant que réalisatrice, je vais faire un documentaire sur mon père, qui était donc journaliste et très engagé, notamment auprès de Thomas Sankara dans la révolution au Burkina Faso, qui est décédé très jeune, qui n'aura pas vu les effets de cette révolution et qui fait partie d'une génération d'intellectuels africains qui, pour beaucoup d'ailleurs, ont été soit assassinés, soit emprisonnés, soit... Voilà. Et pour moi, c'est la question de qu'est-ce que cet héritage et comment il résonne avec notre époque. Et puis, j'ai plein de projets en tant qu'actrice. Il y en a qui vont sortir, sans transition, hein, un film d'Andrea Vescon et Éric Métayer qui s'appelle « Quand tu seras grand », qui va être super.
Quand vous dites que vous êtes hybride, c'est de ça que vous parlez?
Oui.
Bah ouais. Vous partez...
Moi, il y a plein de...
Il n'y a pas de limite à la création?
Non, je ne crois pas. En tout cas, c'est des limites à dépasser toujours.
Est-ce que vous êtes, vous aussi, sensible à l'idée qu'il ne faut pas qu'on reste enfermé dans une boîte dans laquelle on nous met quand on est artiste?
N'est-ce pas?
Hein? On est d'accord.
Mais évidemment.
Bon, l'émission n'est pas terminée, hein, je vous préviens. C'est justement le moment le plus intéressant. Enfin non, on a parlé de beaucoup de trucs intéressants, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, j'improvise moi aussi.
Non, mais j'avais pas mal pris.
le moment le plus tendu, on va dire, de cette émission, il arrive là bientôt, puisque c'est le moment de l'impro. C'est le moment, la fameuse improvisation. Et cette année, c'est un peu différent de l'année dernière, parce que je vais y aller petit à petit. C'est vrai que mes invités avant, tout de suite, je leur disais, vas-y, proposez-moi un truc. Ah, c'est compliqué quand même, parce que quand t'es pas musicien, tu pars de quoi? Enfin, c'est compliqué. Je me suis dit, tiens, cette année, on va faire un peu différemment, on va faire quelques petits exercices.
Voilà, baby
quelques petits échauffements où vous allez justement chercher un peu, improviser. Je vais poser quelques petites questions. C'est une sorte de petit quiz création. Voilà, on va commencer par un petit moment. Vous êtes d'accord? Vous êtes prête?
Oui, j'adore les jeux.
Ouais, d'accord. 3, 2, 1, top. Bon, on va voir ça.
Alors, et j'adore gagner aussi, attention.
Alors, dans ce cas-là, si vous voulez gagner, on va mettre des points. Voilà, je prends mon stylo, je vais mettre des points. On va commencer par une petite recherche plutôt pour savoir qui vous êtes vraiment musicalement. Mais citez-moi trois musiciens ou artistes que vous écoutez assez régulièrement et qui sont un peu votre inspiration musicale. Qui sont des artistes que vous aimez, que vous appréciez, que de temps en temps vous dites tiens, j'écouterais bien ça et tout.
Alors, je dirais en premier lieu Fatoumata Diawara. Ensuite, alors j'hésite, mais il faut que je prenne choisir que trois là.
Ah ouais, c'est le principe. Okay. Après, bon.
Ensuite, on après peut déroger, ça Diawara, va. Je dirais Oasis Diop.
Gros et silence puis, radio. C'est qu'en radio, dirais... on n'aime pas en radio.
Oui, c'est vrai. Mais c'est un silence en plus.
De... Ah, grosse... D'ailleurs, on parlait de rythme oui. tout à l'heure. Comme ça, je vous laisse quelques secondes ouais. de plus. Mais dans votre merci. Film, il y a ces moments. Il y a ces moments.
je prends.
Non, mais c'est vrai. En plus, c'est pas pour.
Je peux regarder mon téléphone. Non.
Oui, carrément.
Enfin, non, pour mais... choisir ma musique.
Mais allez-y. Okay. Vous allez tout de suite sur vos plateformes préférées. Non, mais en vrai, dans ce film, il y a un rythme que j'aime beaucoup parce qu'il y a des moments où vous nous laissez vraiment rêver, vous nous laissez voyager. Le paysage est magnifique. D'ailleurs, l'affiche en soi est absolument sublime. Je la trouve vraiment magnifique. Et on comprend tout, le voyage, l'ancrage et ces espaces assez arides, finalement, dès qu'il n'y a plus d'eau. Et j'ai beaucoup aimé ces rythmes. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces moments où vous nous laissez rêver. Vous nous parlez de choses profondes et puis après, vous nous laissez rêver. Voilà, marcher sur l'eau, allez le voir au cinéma. Et puis du coup, vous avez trouvé ou pas votre troisième?
Bon, puisqu'il faut choisir, je dirais Bill Withers.
Bill Withers. Ah, parce qu'on a TSF Jazz et qu'il fallait quand même un tout petit peu de... Non.
Non. Ah non.
Bon, allez, je vous donne votre point. Vous l'avez, votre point. Est-ce que vous jouez, vous, d'un instrument de musique?
Non.
Est-ce que quelqu'un dans votre famille, vos enfants, parents?
Alors, moi, je suis une pianiste.
Ah.
Qui voilà. ne joue pas du piano. Mais je sais que dans mon âme, ouais. je suis une pianiste. C'est-à-dire... Et c'est là où c'est le moment où je deviens hyper chelou aux yeux des gens. Mais je l'assume. Je sais que je suis pianiste.
Quand vous
et un jour,
les
je vais
yeux...
vraiment m'y mettre.
Avec pianiste de jazz ou classique ou quoi?
Classique.
Vous êtes pianiste classique. Vous jouez
ouais.
Chopin. Vous
oui.
Jouez... Ouais. Ah, c'est fou ça. Mais ça va faire un film, non?
Oui. Je ne sais pas encore lequel.
Il y a un scoop de ouf là.
Ouais.
Les amis sur TSF, on va apprendre.
Oui, j'aimerais beaucoup que ça devienne un film. Mais pour l'instant, le projet en soi n'existe pas. Avis au.
Bon, alors, normalement, vous ne devriez pas avoir de points, mais votre réponse, elle est tellement belle que je mets le point. Voilà, normalement, vous devriez avoir quelqu'un dans votre entourage qui fait de la musique, quand même.
C'est oui, mon oncle, qui joue du saxophone.
Heureusement qu'il est là, le tonton.
Tonton Ousseini.
Est-ce que vous connaissez les notes de musique dans le sens ascendant? Do, mi,
oui,
fa.
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
Et dans le sens descendant?
Oh,
allez,
c'est là
allez.
Que je perds
ah, vous
point.
Aimez gagner, vous avez dit.
Do,
si,
si, la, sol, fa, Mirédo.
Voilà, vous avez votre point. Très bien. Et si on va un tout petit peu plus loin sur le côté solfège, oui. Alors là, on a perdu absolument tous nos auditeurs.
Oui.
Est-ce que si je vous dis deux croches, vous savez ça égale à quoi? Deux croches, c'est égal à quoi, par exemple?
Non, je ne sais plus, j'ai oublié.
Non, d'accord.
Si je vous dis, croches,
si je vous dis deux, je sais pas, une blanche pointée. Est-ce que vous savez combien de temps ça représente?
Une seconde et demie.
Ouais. Bon. Alors, je suis désolé, là
si
le point, je vous le donne
pas.
Je suis désolé, ce point-là, vous l'aurez pas. Alors, on va essayer maintenant un peu plus concret. Travaux pratiques, ça, c'est pour vraiment essayer de vous insuffler cette énergie de création. Si je chante une note, vous savez la
oh,
repérer? Si je parle, si je fais...
Ça, oui.
Na... Est-ce que vous repérez cette note?
Mi?
Non, mais de la chanter avec moi.
Ah,
ouais, vous l'avez. Faites-le.
Je crois qu'il fait que je...
Ok. Ok, si je fais plus compliqué. Bon, vous avez l'oreille relative, ou en tout cas l'oreille mélodique, c'est parfait, vous avez votre point. Si je fais un rythme, si je fais par exemple ça.
Ça ressemble...
Trop bien, vous avez le rythme. C'est bon, donc vous êtes... Alors, deux derniers... Vous savez, vous avez kiffé, là, vous avez encore... Je pense qu'on peut continuer. Alors, dernière question, c'est le vrai ou faux? C'est une question à 2 points. Vous avez pour l'instant 7 sur 10. Si vous avez 2 points, vous avez 9. C'est quand même une très bonne note. Vous vouliez des points. Je vous ai fait des points. Vrai ou faux? Attention, la question elle est là. Le triangle fut inventé en 1904 par Einstein, qui, à l'âge de 25 ans, étudiait
faux.
Le rapport entre le chiffre 3
Vous êtes sûr?
Bah non.
Alors je continue,
mais je
parce
me dis
que ça
peut pas être aussi récent.
Ah bon? Alors écoutez jusqu'au bout. Alors donc il étudiait le rapport entre le... Je finis pour les auditeurs. Est-ce que donc c'est bien Einstein en 1904 qui a inventé à l'âge de 25 ans qui étudiait le rapport entre le chiffre 3 et les règles naturelles de l'acoustique. On raconte alors qu'il s'amusait à tordre des bouts de métal en trois tiges afin d'étudier l'effet que la fréquence du métal ferait sur le corps humain lorsqu'il était frappé par une autre tige similaire. Il expérimentait ceci en particulier sur le coude, car c'est connu, Einstein était fasciné par le pli du coude, et c'est en s'inspirant du pli du coude de l'être humain qu'il plia le métal dans une sorte d'angle de 60 degrés, qui correspond au même angle que le coude. Donc 60 fait 3, c'est les trois angles égaux du triangle qui font 180 degrés, c'est le fameux triangle équilatéral qu'on connaît. Est-ce que c'est vrai ou faux? Maintenant, vous avez le droit de répondre, du coup.
Moi, j'ai l'impression que c'est faux. Et j'ai très envie de regarder sur Wikipédia.
Ouais, mais d'accord. C'est évidemment à 180...
C'est quand même 2 points, là.
C'est quand même à 180% faux, évidemment.
D'accord.
Donc, c'est bon, voilà. C'était le triangle. Alors, le triangle, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est le fameux triangle d'orchestre, qui est la famille du sistre, qui est un instrument de percussion qui apparaît dans l'orchestre symphonique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle seulement. Hein.
Ouais, c'est quand même récent.
C'est quand même pas si fou, non plus ça. C'est un instrument pittoresque emprunté aux fanfares ottomanes. De la même manière d'ailleurs que quasiment tous les instruments qu'on retrouve dans un orchestre classique symphonique, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui pensent que l'orchestre symphonique est né comme ça, pratiquement tous les instruments sont issus des cultures du monde entier. Ils se sont regroupés pour créer cette entité culturelle. Ces instruments ont une histoire qui est très intéressante de connaître. Par exemple, le violon vient du rabab arabe. La flûte traversière est née en Asie, à 9 siècles avant notre ère. Ou encore les timbales qui viennent du mot tabl en arabe aussi, qui veut dire tambour. Bref, plusieurs siècles utilisés pour rythmer des danses, etc., le table. Un autre exemple, tiens, on connaît aussi, j'ai noté plein de trucs là comme ça, mais je vais vous en citer que quelques-uns. Les olettes, ce sont en fait des joueurs grecs de holos. C'est un instrument simple ou double, mentionné entre autres par Homère dans l'Iliade, où il dit « Et l'on entend les Thèbes en flamme, le son des holois ». Ou les tibikens, joueurs de tibiae romains, pareil, alors là, vraiment, j'ai perdu le reste de mes auditeurs.
Non, on y est, là, on voyage.
Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est tout ça, ces instruments dont je vous parle, c'est les ancêtres du hautbois qui venaient d'Égypte. Vous voyez comme quoi l'orchestre classique, qu'on se le dise, les instruments classiques de l'orchestre symphonique, en fait, tels qu'on les connaît, sont des héritages du monde entier, additionnés dans une grande famille et intégrés avec amour dans la société musique. Voilà un magnifique exemple d'intégration, de renouvellement de l'art et donc de la société à travers le mélange des cultures du monde. J'ai écrit ma phrase avant de la lire, hein. Ça s'entendait, non? Bon, bref, je m'évade un peu. Maintenant, Aïssa Maïga, comme vous le savez, le triangle ne vient pas donc d'Einstein. Ça va vous changer votre vie, évidemment, vous l'avez bien senti. Bon, on passe à la partie improvisation. C'est votre moment. Vous devez donner une petite idée très très rapidement. Et puis ensuite, nos amis musiciens vont improviser là-dessus.
Une idée avec des mots?
Ce que vous voulez musicalement.
Les yeux accrochés à celui de l'autre. Yeux accrochés.
Ok, ça marche. Les gars, vous avez 2 minutes.
De l'autre.
Une minute pour vous capter cette idée-là. Allez, on se retrouve dans 1 minute, les amis. Allez, c'est parti.
Allez.
Improbox.
Et en réalité, la vie, c'est improvisation.
Le B.A.B.A. d'Ibé.
Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Alors voilà, Improbox, c'est ce moment que j'attends à chaque fois impatiemment, ce moment de création. Aïssa Maïga, vous nous avez donné cette idée. Les yeux accrochés au cœur de l'autre, c'est ça? Voilà, et bien maintenant... Les yeux accrochés au cœur de l'autre. Ça va être repris par les frères Carapétian. Voilà. C'est parti, les amis. Yesai au piano et Marc à la basse. C'est à vous. Vous prenez cette idée, c'est à vous. Thank you.
rien n'est écrit, rien n'est prévu. Improbox, Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
Voilà, les yeux accrochés au cœur de l'autre. C'était vos textes, Aïssa Maïga.
Moi, je n'ai vraiment aucun mérite. Là. C'est magnifique ce qui vient de se passer.
C'est absolument sublime. Merci Yesaï Carapétian et Marc Carapétian pour cette improvisation. C'est une improvisation, une vraie, en direct, en live. Et si vous avez aimé, j'en suis sûr que c'est le cas, ces musiciens et cet artiste qui nous a régalé au piano ce soir, Yesaï, sort un album qui s'appelle Yesaï. Voilà, ça sort le 28 janvier au label, sur le label Kyudo. Et puis surtout, vous pouvez le retrouver en live, puisque Yesaï sera en concert le 17 janvier, le 15 février et le 21 mars au Duc des Lombards. Voilà, pour tous ceux qui veulent aller vous écouter. Merci, c'était absolument génial. Merci pour ces trois lives que vous nous avez offerts, Yesaï. C'était un plaisir de vous avoir ici. Aïssa ?
Oui.
Quelle inspiration, encore une fois ? Dernier petit mot sur
ce qu'on vient d'entendre.
Sur ce qu'on vient d'entendre. Cinéma encore aussi, non ?
Ah bah oui, là c'est... moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique. J'ai vu de l'eau et j'ai vu un couple et j'ai vu... j'ai rien à dire en fait.
Un couple c'était de poissons beau. Qui nagent dans l'eau, vous avez vu ?
Non, un couple humain.
Oh là 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 là. Bon, j'ai eu envie de vous rebalancer cette musique qui est aussi l'eau, hein, Aquarium. Camille Saint-Saëns, Carnaval des animaux. On est à Cannes, là ?
Ah oui, j'adore.
Vous avez ce film était à Cannes ? J'ai vu qu'il y avait une séance spéciale pour marcher sur l'eau.
Oui, il y a eu une sélection qui s'appelle Le cinéma pour le climat. Et le film a été sélectionné parmi sept autres.
Ben voilà, ma félicitation.
Merci.
Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès avec ce film et puis avec tous les autres que vous allez faire.
Merci beaucoup.
Vous vouliez dire un dernier petit mot
Oui, je voulais faire un clin d'œil à Huel Lamort, qui a composé la bande originale du film. Et c'est évidemment absolument magnifique.
J'avais envie d'avoir une deuxième heure dans cette émission pour entrer dans les détails de la composition. J'étais très touché, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, puis je me suis dit, oh là là, si je commence à parler de cette musique. Mais c'est absolument sublime, ce qui a été composé sur ce film. Et puis, ben, ça prouve encore une fois que vous êtes une personne qui a beaucoup de goût et qui choisit avec beaucoup de délicatesse son œuvre. C'est un plaisir de vous avoir
avec nous.
Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès avec ce film. Chère Aïssa, je ne voulais pas finir cette émission sans partager avec vous aussi une musique que j'adore et qui pourrait tout à fait faire l'objet d'une musique, d'une collaboration pour vous dans un prochain film, un prochain documentaire. C'est un petit cadeau symbolique, évidemment. C'est un album absolument magnifique qui s'appelle Chamber Music avec Vincent Segal et Balek et Sissoko. Peut-être que vous connaissez. Ce titre s'appelle Oscarine. Je me suis dit, c'est un petit clin d'œil. Qui sait, peut-être que votre film ira aux Oscars. On n'en sait rien. Ça serait vraiment super. Je vous souhaite ça parce que c'est vraiment un sujet extrêmement important. Et pour les années qui viennent, je crois que ça va devenir impossible de contourner cette problématique-là de l'eau. Voilà. Marcher sur l'eau. Est sorti, vous pouvez aller le voir au cinéma. Merci d'avoir été avec nous, Aïssa.
Merci beaucoup.
Et puis merci à toute l'équipe de TSF, Jean-Charles Adoucan à la réalisation, Eric Holstein à la sonorisation, merci à Pia Duvigneau pour l'accueil et l'organisation, merci à Devin Simon pour la vidéo pour Facebook, tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook, et puis merci à toute l'équipe de TSF qui m'accueille, voilà, avec beaucoup de bienveillance. Merci Aïssa, merci Yesaï, c'était Ibrahim Mahalouf, on était sur un Probox numéro 12, il me semble, c'est la 12e émission, donc je suis impatient de vous retrouver le 15 décembre pour la 13e, et en attendant je vous laisse avec Vincent Segal et Balaké Sissoko Oscarine, à bientôt.